Voilà, vous avez choisi Radio Ndekedoka pour vous informer. Nous vous disons merci pour la confiance. Il est justement 13h et Rennes est avec nous pour le journal. Rennes, Fabienne Doutiga, bonjour.
Bonjour Nina Verdiane, bonjour à tous. À la une, un incendie et une famille disparaît. Drame survenu cette nuit au quartier Lakwanga à Bangui. Précision au début de ce journal. Les vols à mers armées se multiplient à Bangui et à l'intérieur du pays. La population appelle les forces de l'ordre à intervenir davantage. Les réactions se multiplient après la mise en place du nouveau gouvernement. Dans cette édition, la position du groupe de travail de la société civile GTSC et du parti politique Patrie. Football d'FC8 de Bangui, champion de Centrafrique, l'équipe représentera le pays dans les prochaines compétitions africaines.
À la une de cette édition, Rennes, ce drame à Bangui, au quartier Lakwanga, dans le deuxième arrondissement.
Oui, Verdia, une famille de 4 personnes a péri dans un incendie. C'est la maison de Nadia Karine Fornel-Poutou, présidente de l'Association des femmes juristes de Centrafrique, AFJC, qui a pris feu dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Elle est morte avec ses 3 enfants, Chriswa Jordan Badengbe.
Le feu s'est déclaré aux environs de 23 heures. Nadia Karine Fornel-Poutou, présidente de l'Association des femmes juristes de Centrafrique, AFJC, et ses 3 enfants, 2 filles et 1 garçon, sont morts dans l'incendie. Ce voisin a tenté en vain de leur porter secours.
L'intervention d'une fille qui a demandé au secours. On avait peur dès le début pour sortir, compte tenu de phénomène de braquage pour l'instant. Et après, à la fin, on a accepté de sortir. Quand je lui ai demandé, elle me l'a montré. J'ai essayé de faire ce que un centrafricain peut le faire. Comme je maîtrise un peu les trucs d'incendie, j'ai fait mon première démarche. J'ai cassé la grille principale et j'ai vu à peu près la géographie de la maison. J'ai vu que l'autre côté n'était pas touché sûrement. Tout le monde doit être dans l'autre côté. Ça veut dire qu'on a cassé, j'ai cassé le mur pour essayer de les sauver, mais c'était affreux parce que il y avait trop de fumée à l'intérieur de la maison.
D'après le même témoin, il n'y avait pas d'électricité dans le secteur cette nuit. Tôt ce matin, l'ancienne et la nouvelle ministre de la Femme et de la Famille se sont rendues sur place pour constater les faits. Annie-Gisèle Pana, ministre sortante.
C'est un drame malheureusement, très, très dramatique pour nous les femmes, parce que nous sommes venus nous recueillir dans la famille de la présidente de l'Association des femmes juristes. Malheureusement, il y a eu un incendie et il y a un drame familial. Nous avons perdu cette grande activiste des droits de la femme, qui est Karine Poutou, qui est partie avec ses enfants. Et avec la ministre de la promotion de la femme entrante, nous sommes venus présenter nos condoléances les plus sincères à cette famille.
Selon les membres du gouvernement, une enquête sera ouverte pour mettre en lumière les causes de cet incendie.
Les braquages continuent dans certains quartiers de Bangui. Les habitants sont de plus en plus inquiets.
Malgré les mises en garde des forces de l'ordre, ces vols à mains armées se poursuivent. Alexia Félix Yangbandi a rencontré certaines victimes. Reportage.
Au quartier Yassimandi, dans le 5e arrondissement, Miguel Bangakoté a été braqué mardi vers 2h du matin.
Ils étaient venus tout d'abord casser la porte de ma maison en me demandant, nous sommes venus prendre la moto. Je leur ai répondu, quelle moto? Ta moto. Et puis, ils ont pris la moto, ils ont pris l'écran plasma, le régulateur, y compris mon ventilateur.
Ces vols à mains armées sont perpétrés dans presque tous les arrondissements de la capitale. Dans le 8e arrondissement, nous rencontrons Béatrice. Très triste, des braqueurs ont emporté ces motos.
Je me bats tous les jours sous le soleil et la pluie pour vendre mes marchandises. Mais voilà que les voleurs m'ont pris mes 3 motos de marque Audio. Pendant combien de temps je pourrais avoir de l'argent pour m'en acheter? Je suis très triste.
Voisin de Béatrice, Marcel Otto, a été braqué 2 jours bien avant.
Je me suis retrouvé en face de des individus qui m'ont pointé avec leurs armes. J'étais obligé de leur montrer la clé sur l'étagère et ils ont pris la clé et pour prendre la moto et me demandant de leur verser un montant de 50 000 francs. Et je leur ai dit que je n'ai pas d'argent. Et de là, ils ont emporté l'ordinateur plus un téléphone portable.
Eric Baouketé est chef du quartier Galabadia 3. Il sollicite l'intervention des forces de l'ordre.
Ça ne va pas. Le moment que l'aide de coupe de feu s'arrête, ils tirent à l'air. Bon, nous croyons que ce sont des forces de l'ordre qui font disperser les gens qui à côté des roues là. Je veux que, comme auparavant, le ministre de Défense, Joseph Binoumi, il avait mis les tiens-pointes là. Comme ça, ça peut nous aider dans le 8e arrondissement.
Aubin Armel Lavodrama, commandant de l'unité de police du 8e arrondissement, indique qu'il multiplie les patrouilles, mais déplore le manque de coopération de la population.
Nous effectuons toujours des parcours motorisés avec la collaboration de l'OCRB d'Amala et d'une branche de la Compagnie nationale de sécurité pour essayer de faire face à ces multiples cas de vol à main armée qui subissent dans notre arrondissement. S'ils nous donnaient au moins des renseignements fiables, ça nous aidait à aller au moins en profondeur, d'aller jusqu'à là où ces gens-là se réunissent les nuits, mais puisqu'ils ne nous donnent pas les renseignements, nous sommes toujours confrontés à ces difficultés.
Ces braquages se multiplient alors que le couvre-feu est en vigueur et la République centrafricaine est toujours sous état d'urgence.
Le dialogue politique ouvert ce matin entre le gouvernement et l'Union européenne se poursuit à Bangui.
Il s'agit d'une réunion qui mobilise des représentants de l'Union européenne et du gouvernement centrafricain. Ces échanges d'une journée se déroulent au Palais de la Renaissance. Plusieurs points sont à l'ordre du jour. C'est ce que précise Samuel Izopi, chef de la délégation de l'Union européenne en Centrafrique. Elle est interrogée par Bonaventure Ngomba Katikiro. C'était hier soir à l'occasion d'une cérémonie marquant la fin de sa mission en terre centrafricaine.
On va échanger sur un certain nombre de sujets d'actualité, dont notamment le dialogue républicain, mais aussi le processus de paix, la PPR. On va écouter le gouvernement sur ses priorités. On va nous exprimer là aussi quelques suggestions, quelques pistes. On va aussi parler de questions sensibles, notamment la désinformation, la situation humanitaire et des droits de l'homme sur le terrain, où les groupes armés continue de commettre beaucoup de violations, mais également d'autres entités sont aussi impliquées dans des violations des droits humains. On va parler de certains chantiers de réforme pour le gouvernement, mais aussi chantiers de coopération, notamment la réforme du état de la sécurité, la justice, la gouvernance.
Et puis, Rennes, les réactions continuent après la nomination mercredi dernier du nouveau gouvernement.
Effectivement, Verdiane, selon Paul Cresson Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile GTSC, le choix des membres du gouvernement ne respecte pas les dispositions de la Constitution. Il est au micro de Francis Clavercala.
Ce gouvernement a fait la part belle au groupe armé et à la famille politique du président. À la famille politique du président, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est que la Constitution aujourd'hui, elle est claire. La Constitution interdit au président de la République d'intégrer au sein des institutions républicaines, dans le gouvernement, les membres des groupes armés. Aujourd'hui, on a vu presque 4 ou 5 personnes en provenance des groupes armés nommées ministres. Je pense que ça gêne et ce décret, en réalité, doit être attaqué devant le Conseil d'État. Deuxièmement, il faut tenir compte également d'un équilibre régional, même si la loi de quota n'a pas été codifiée. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut mettre en place une politique de quota, mais prendre par exemple 4 personnes de Vakaga au détriment de certaines régions, ça peut gêner, ça peut frustrer. Je pense que le Premier ministre a parlé très vite parce qu'il a annoncé un gouvernement de large ouverture et un gouvernement d'action. Action, on verra plus tard, mais large ouverture, c'en est pas.
Autre réaction, celle du parti d'opposition démocratique, Patrie. Ce mouvement estime que le gouvernement est dominé par la majorité présidentielle.
Le parti demande la mise en place d'un comité d'organisation pour un dialogue national inclusif, comprenant toutes les sensibilités politiques. Suivons Maître Crépin Boligumba, président du Patrie, au micro de Vianney Ingasso.
Nous constatons qu'il s'agit d'un gouvernement de la majorité présidentielle, c'est-à-dire qui est composé des militants du MCU et ses alliés, ce qui est normal, c'est un gouvernement MCU. Vous vous souvenez que le Patrie avait été représenté dans le gouvernement suite à l'accord de Khartoum. L'accord de Khartoum ayant été dénoncé par ses protagonistes et ses signataires majeurs, il était inconcevable que le Patrie soit encore représenté au sein du gouvernement. Donc, tout naturellement, nous n'y sommes pas représentés. L'essentiel, c'est l'organisation de ce dialogue politique inclusif. Et nous avons un préalable en tant que parti politique, c'est que le comité d'organisation de cet événement important pour la vie de la nation devra être inclusif, c'est-à-dire qu'il devra être composé de toutes les sensibilités nationales, que ce soit parti politique de l'opposition, pouvoir public, société civile, pour que les conditions soient réunies et que ce dialogue se tienne sous de meilleurs auspices.
Quel avenir pour les enfants du village d'Ombaïké, situé à 10 km de Baboua?
Depuis plus d'un an, l'unique école de cette localité est fermée. Motif, une tornade a emporté la toiture de cet établissement. Notre correspondant Honoré Richard Mondogourou, de passage à Baboua, nous raconte.
Le 1er juin 2020, la toiture de l'école d'Angbaïké a été emportée. Une école qui compte plus de 350 élèves. Les cours sont suspendus, laissant les élèves à leur triste sort. Jacques Fonsengue, maître parent, s'inquiète de l'avenir de ses enfants.
Les anciens ont parlé en vain. Même le chef secteur scolaire de Babouaaba, y compris M. le maire. Les parents d'élèves n'ont pas manifesté de construire un hangar à cause de l'insécurité pour encadrer les enfants. Notre dernier espoir est sur le gouvernement de la RCA de nous venir en aide pour la réhabilitation de cette école.
Marcelin Pierre Ndanga, chef du village d'Ongbaïké, déplore cette situation et lance un SOS au gouvernement et aux partenaires de venir au secours des enfants.
Nous sommes en regret. Vous savez, l'insécurité nous empêche de construire pour que nos enfants étudient. C'est la principale raison.
Depuis plus d'un an aujourd'hui, les enfants de ce village sont abandonnés à leur triste sort. Ils ne vont plus à l'école. Leur seule activité est d'accompagner leurs parents au champ ou dans les chantiers miniers.
Covid-19 en Centrafrique, au moment où le gouvernement se félicite de la réussite des opérations de vaccination lancées dans le pays, certains pays africains s'inquiètent encore du confinement partiel.
Selon le ministère de la Santé, cette campagne de vaccination est réalisée avec succès à 98% si on se réfère aux doses de vaccins reçues et administrées. La République centrafricaine est pour l'instant dans l'attente de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca. Pour le moment, le pays a enregistré plus de 7140 infectés et 98 décès depuis le début de cette pandémie déclarée le 14 mars 2020.
Autre fait d'actualité, Rennes, en Éthiopie, une frappe menée par l'armée éthiopienne qui visait des rebelles ont fait beaucoup de victimes dans un marché de la ville de Tigré.
Le bilan est lourd et il est toujours provisoire. Ce bombardement a fait au moins 64 morts et 180 blessés. Les militaires affirment avoir visé des combattants rebelles, mais les États-Unis, l'Union européenne et l'ONU condamnent cette frappe et demande une enquête rapide sur l'attaque et les actes privant les victimes de soins médicaux. L'attaque a eu lieu mardi dernier.
Aux États-Unis, Derek Chauvin devait être fixé aujourd'hui sur sa peine pour avoir tué George Floyd.
Reconnu coupable le 20 avril dernier d'avoir tué George Floyd, c'est aujourd'hui que le policier va connaître sa peine. La sentence sera annoncée devant le tribunal de Minneapolis. La page sport, c'est avec vous, Claire Assamba-Dingar. Claire, bonjour.
Bonjour Rennes, bonjour à tous.
Commençons avec du football d'FC 8 de Bangui, champion de Centrafrique.
Oui Rennes, il a fallu seulement deux rencontres hier pour départager les quatre équipes qui étaient en compétition depuis deux semaines environ. Diplomate Football Club d'FC 8 de Bangui et le stade centrafricain SCAF de Bois ont fait match nul 2-2. Petrodollar de Berberati a battu les frères centrafricains l'FC de Bombari 4-1. Nazaire Gonza, coach de FC 8 de Bangui, est satisfait de ce tournoi, mais déplore la qualité de terrain.
C'est tout à fait normal pour gagner un titre. Je sais que nous sommes arrivés, donc félicitations.
Que retenez-vous de ce tournoi?
C'est un bon tournoi. Dommage que le terrain n'est pas bon. C'est un bon tournoi, c'est la cohésion sociale. Donc c'est une bonne chose. Donc la prochaine fois, bien organisé par rapport au terrain, il faut en trouver un bon tempo pour organiser tout ça.
La fédération va vous engager pour la compétition africaine. Qu'est-ce que vous allez faire pour représenter toute la SCA dignement pour que tout le monde se retrouve?
On va d'abord se reposer et réfléchir, renforcer l'équipe.
Même sentiment du côté de Petrodollar de Berberati, classé deuxième dans ce tournoi. Jean Tingana Mutombo, entraîneur de Petrodollar de Berberati.
On voyait DFC 8, mais on avait fait une petite erreur et c'est ça qui a coûté cher pour nous.
Mais qu'est-ce que vous retenez de bien dans ce tournoi?
Dans ce tournoi, oui, le tournoi a bien passé, mais on a volé notre champion parce que les arbitres, ils jouent pour DFC 8. Donc, moi, c'est pas normal. Donc, il ne faut pas faciliter les choses. Si quelqu'un te dépasse, il faut porter ses sacs. Je regrette un peu. C'était la meilleure équipe du tournoi.
Malgré tout ça, là, vous êtes satisfait de votre deuxième place?
Oui, on a satisfait pour la deuxième place, malheureusement.
Des propos recueillis par Bienvenue Bello depuis Berberati. Maxime Sangapé de SCAF de Boire est sacré meilleur joueur du tournoi. Belfort Ngitigaza de DFC 8 de Bangui est quant à lui meilleur buteur avec 7 buts. Dieu béni Manda Dacia de Petrodollar est élu meilleur gardien du tournoi. Les frères centrafricains de Bombari est désigné meilleure équipe de fair play. En classement général, DFC 8 de Bangui est champion avec 12 points, plus un trophée et plus de 2 millions de francs CFA. La deuxième place est attribuée à Petrodollar de Berberati. Berberati, vice-champion du tournoi avec 11 points, un trophée de plus d'1 500 000 francs CFA. En troisième position, SCAF de Boire avec 1 million de francs CFA. Et enfin, les Frères centrafricains de Bombari, 1 point avec 500 000, plus un trophée de fair play. Le meilleur dirigeant est attribué au président de Petrodollar, Doucet Kossi.
Clara Sambadinga, football ici à Bangui. La fin de période du mercato qui a été fixée pour le 24 juin 2021 à minuit est prorogée jusqu'au 5 juillet 2021 à minuit.
Oui, Rennes, les clubs et joueurs intéressés sont prêts de prendre les dispositions nécessaires pour les formalités d'usage. La commission des statuts du joueur, conformément aux dispositions des textes organiques de la Fédération centrafricaine de football, demande à tous de respecter le calendrier pour la délibération.
Merci à vous, Claire. C'est la fin de ce journal en français. Merci de votre écoute. La version c'est tout de suite.